Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de notre émission Les premiers pas de l'histoire, le réseau des paléonautes et antennes DOC vous propose aujourd'hui de découvrir ou de redécouvrir les phosphatières du Clou d'Oral situées sur la commune de Bac. Ce site est une vraie mine au trésor, au sens propre comme au figuré. C'est Frédéric Bérard qui vous amène à sa découverte. Alors, installez-vous dans votre meilleur fauteuil, fermez les yeux, la visite commence. Bonjour, je suis en présence de Frédéric Bérard qui est responsable du site. C'est avec lui qu'on va faire cette visite. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Alors la visite commence ici, là on se trouve devant un petit chariot, j'imagine qu'il transportait le phosphate.
Voilà, oui c'est ça. Donc ce petit chariot sur lequel on démarre la visite en fait est là pour nous raconter un petit peu cette histoire de la mine, donc qui permettait de transporter la phosphorite depuis la mine jusqu'à la route.
Alors c'est parti pour la visite ?
Voilà, tout à fait. Nous voilà arrivés au bord du gouffre. Hein. On découvre ce matin le trou, il est un peu noir, un peu sombre en fait. Hein. Ça paraît comme ça un peu inquiétant. Bon, il est bien protégé par des barrières, donc vous risquez rien. Hein. Ce trou, au 19e siècle en fait, il n'était pas visible puisque à la place de ce trou, on avait un champ plat et cultivé. En effet, le Quercy était très différent à l'époque car il y avait beaucoup de population. Et il y avait des champs cultivés un petit peu partout, donc des champs de blé, même parfois, et surtout beaucoup de vignobles. Le vignoble, en fait, de Cahors était installé tout autour de nous à cette époque-là. Et donc, dans ce contexte-là, en 1865, un homme a remarqué, donc près de Quélus, dans le Tarn-et-Garonne, mais sur le même ensemble géologique sur lequel nous sommes, c'est-à-dire sur le causse de Limogne, cet homme, il s'appelait Jean-André Poumarède, et il a remarqué dans un champ cultivé qui poussait bien la présence de phosphorite. Donc cette phosphorite, c'est une roche donc qui contient du phosphate. Et lui-même savait, étant chimiste de formation, que en broyant cette substance, on obtenait en fait de l'engrais. Voilà. Alors là, j'ai entre mes mains un nodule de phosphorite du même modèle qui a été trouvé par Jean-André Poumarède. Donc il est de forme très irrégulière en fait, hein. Donc il ressemble d'ailleurs plutôt à une sorte de cerveau en fait.
Oui, c'est ça, on dirait quelque chose de fondu.
Circonvolution, voilà. Il a l'impression d'avoir été fondu mais c'est pas le cas, il est émaillé. Donc il a diverses couleurs, alors il y a des couleurs un peu jaunes, voilà, qui viennent des oxydes de fer qui sont dans l'argile, et également donc des choses un peu blanches en fait, et donc ça c'était broyé pour donner de l'engrais. Jean-André Poumarède a lui-même aussi trouvé sur le lieu de sa découverte la présence de choses comme ça. Alors je sors de mon sac.
Le petit sac magique, c'est Marie Poppins.
Voilà, c'est ça. Alors j'ai dans mes mains un os qui fait à peu près une trentaine de centimètres de long sur 5 centimètres de diamètre en fait au plus petit jusqu'à 10 centimètres au plus gros là. Cet os en fait c'est un humérus d'un animal qui a vécu ici il y a très longtemps. Donc il y a des dizaines de millions d'années, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et donc en tout cas cet os... Pour longtemps là, il n'est pas fait d'os en fait, il est fait de phosphorite, donc c'est un fossile. Ces fossiles sont très intéressants aujourd'hui pour reconstituer l'histoire des animaux et des paysages qui ont été dans la région, je vous en reparlerai tout à l'heure. Ces os, malheureusement, ont été broyés pour donner de l'engrais aussi, puisqu'ils sont faits de phosphorite. Donc la phosphorite, c'était des concrétions comme les nodules qui sont là, également le long des parois. On récupérait des morceaux un peu plats comme celui-ci. Donc c'était de la croûte de phosphorite, donc des morceaux plats. Ces fossiles, voilà, donc c'était ces trois choses, nodule, fossile, croûte, c'était ce qui était exploité. Voilà, et puis donc suite à ça, pendant 5 ans, on a recherché des phosphatières dans le coin. Donc on n'en a pas trouvé qu'une, comme celle qu'on visite ici, qui est la seule aujourd'hui aménagée pour la visite, mais qui n'est pas la seule qui existe. On a trouvé 300 phosphatières à exploiter. Et donc à partir de 1870, les mineurs ont commencé à les exploiter.
Et là où on se trouve, on est à combien de mètres ?
Alors ce trou que vous avez là, en fait, il fait une trentaine de mètres de profondeur. Ce qu'on peut remarquer, en fait, c'est qu'il ressemble beaucoup à un gouffre habituel. Donc, le plus connu dans la région, c'est le gouffre de Padirac. Donc, lui, il fait plus de 100 mètres de profondeur. Voilà. Alors, le site, donc, vous avez un gouffre là qui fait 20 mètres. Et puis après, vous verrez tout à l'heure, donc, la visite, elle démarre en surface ici. Et puis après, on fait le tour sur un sentier plat. Et après, donc, il y a des escaliers qui permettent de descendre et de remonter au fond. Donc, le site, il fait à peu près 150 mètres de long. Donc, vous allez voir, ça fait quand même un petit canyon. Et donc, on part de la surface et on descend progressivement jusqu'à ces 20 mètres de profondeur.
Et là, on voit donc un seau. J'imagine que c'était pour remonter le phosphate. Le chariot arrivait jusque-là, qu'on a vu tout à l'heure, voilà. C'est ça ?
Alors, ce que vous avez là, en fait, c'est une reconstitution d'un système de treuil. Alors, cette reconstitution, elle n'est pas faite au hasard. Sur les documents qu'on présente en visite, donc là, je vais vous présenter et vous décrire une photographie d'époque que vous allez voir. Donc on a en fait un photographe toulousain qui s'appelle Eugène Truta, donc qui a fait énormément de photos d'ailleurs de nombreux sites pyrénéens, donc il est très connu dans les Pyrénées. En fait, il a pris vers 1877 une série de clichés sur la phosphatière de Rénal, donc qui est située entre Saint-Antonin-Nobleval et Quélus. Alors là, j'ai ici en ma possession un document donc qui montre un système de treuil, donc qui fait à peu près une dizaine de mètres de long en fait, sur 3-4 mètres de large, avec au milieu en fait donc une poutre centrale qui relie deux parties, là, deux portiques, et à peu près au milieu de cette poutre, on a en fait verticalement un axe avec une espèce de tonneau cylindrique en fait, et puis des poutres en croix. Et donc ce système permettait de tourner. La corde est enroulée autour de ce tonneau qui s'appelle en fait un tambour vertical. Et du coup, par un système de deux poulies, on voit un seau ici en surface. On verra tout à l'heure au fond, là on le voit mal parce qu'il est caché un petit peu par la roche et par le... Moi je le vois d'où je suis, mais en plus il est dans l'ombre, on le verra mieux tout à l'heure, il y a un deuxième seau. Et donc il y avait des systèmes de contrepoids qui permettaient de descendre et de remonter les seaux. Et donc ce n'étaient pas des hommes qui faisaient tourner en fait le tambour vertical. On aperçoit sur la photo, alors il faut être très attentif ici, de flou, ce sont des animaux, donc des chevaux ou des bœufs, qui étaient des animaux qui tournaient en fait autour de cet axe. Voilà. Et donc ça c'est un système de treuil qui était utilisé à l'époque. Et donc à partir de cette photo, il y a 5 ans, donc on a reconstitué grandeur nature ce treuil, donc pour montrer aux visiteurs un petit peu comment ça fonctionnait. Donc il n'a pas été mis n'importe où, en fait on a des traces d'implantation d'un système de treuil équivalent à l'époque, donc c'est pas celui qui est photographié, mais c'était certainement un treuil comme ça. Voilà. Ce treuil, on le retrouve sur un autre petit dessin également qu'on montre en visite ici. On voit en fait une coupe de la phosphatière avec au fond les mineurs en train de travailler qui creusent l'argile rouge et des petits morceaux blancs à l'intérieur qui mettent dans le système de treuil pour remonter en surface. Et ensuite, les familles des mineurs triaient à la main la phosphorite de l'argile, sachant que quand ils donnaient 20 coups de pelle au fond, il y avait 19 pelles d'argile et seulement une pelle de phosphorite. Et donc la particularité de ces phosphatières, c'est que en fait 95% de ce qui était à l'intérieur est aujourd'hui autour. On marche en permanence sur de l'argile rouge, on le voit ici, ça fait un petit terre-plein. Là, on a la surface du Cos qui est à l'endroit où nous sommes. Et en face, on voit donc qu'il y a des tas de terres qui sont un petit peu partout là. Donc en fait, tout ça a été mis autour. Le déblai des phosphatières a été étendu autour. Sur le site, là, on marche en permanence sur les déblais de cette exploitation.
Et là, on voit sur le dessin aussi des chariots qui descendent assez bas.
Alors ça, c'est un dessin qui a été fait à partir donc, d'une phosphatière beaucoup plus grande que celle-ci. Donc je vous rappelle ici, 150 mètres de long, 20 mètres de profondeur. La phosphatière sur laquelle a été tiré ce dessin, elle fait presque 1 km de long et elle est descendue jusqu'à 120 mètres de profondeur. Ça permettait de pouvoir mettre des wagonnets sur des plans inclinés pour remonter. Ici, vraisemblablement, on n'a pas de document qui l'atteste, mais je pense qu'il n'y a pas eu de wagonnets à l'intérieur de la phosphatière ici. Ces wagonnets servaient uniquement en surface. Voilà, et donc la suite de l'histoire, c'est que les wagonnets arrivaient à la route, ont chargé dans les charrettes la phosphorite. Cette phosphorite était transportée vers les rivières les plus proches, Et là, donc, je vais vous montrer une carte. Donc, nous, on est à peu près au centre de la zone. Alors, les phosphatières s'étendent, en fait, sur une zone qui va, en gros, de Sauliac-sur-Célé au nord, dans la vallée du Célé, au nord de la vallée du Lot, jusqu'aux gorges de l'Aveyron au sud, Saint-Antonin-Nobleval et Bruniquel pour la partie sud. Et d'est en ouest, en fait, ça va de Bâche, en fait, la commune sur laquelle nous sommes, et Concos, qui est un peu plus à, ici à l'est, jusqu'à Villeneuve d'Aveyron, au nord de Villefranche de Rouergue, en fait, où quelques phosphatières étaient installées. Voilà, donc en gros, on a une zone d'à peu près 500 km² dans laquelle on a eu 300 phosphatières qui ont été exploitées. Généralement, c'était envoyé vers les rivières, donc la rivière Lot principalement, broyé dans les moulins à eau qui servaient à l'époque à faire de la farine. Donc ces moulins ont servi brièvement aussi à broyer cette phosphorite. D'ailleurs, dans la vallée de la Bonnette, il existe encore un moulin, le moulin du Barry de Casse, qui a encore des traces de phosphate sur ses parois, en fait, comme pour attester de ce que je dis. Et puis, c'était ensuite transporté sur des gabarres, puis sur le chemin de fer qui s'est mis en place à partir de 1881 dans la vallée du Lot. Ça partait comme ça jusqu'à Bordeaux. Et de Bordeaux, c'était mis dans des plus gros bateaux pour être envoyé principalement en Grande-Bretagne, donc en Angleterre et en Irlande, où c'était ensuite transformé en engrais. Alors il faut savoir donc qu'on est dans pleine période où la révolution industrielle bat son plein. La Grande-Bretagne a inventé la révolution industrielle, donc appliquée à l'industrie, mais aussi appliquée à l'agriculture. Et donc l'usage des engrais chimiques a démarré beaucoup plus tôt qu'en France. Ce qui fait qu'à l'époque, ils cherchaient beaucoup plus que les Français des gisements de phosphorite. Donc en fait, ce sont eux qui ont acheté aux paysans locaux les droits d'exploiter les parcelles dans le Quercy. Voilà. Donc après, cette exploitation a duré donc entre 1870, début de l'exploitation, jusqu'à 1886, où on a exploité jusqu'à 30 000 tonnes de phosphate par an, en fait. Donc ça a été quand même assez important pour l'époque, sachant que 30 000 tonnes, ça représente en fait 600 000 tonnes de déblé extrait, puisqu'on n'a que 5% de phosphorite dedans. Donc, c'est un travail énorme, en un an, en fait, hein, ils ont fait ça. Et en 1887, on a découvert en Afrique du Nord et en Floride des gisements de phosphorite beaucoup plus vastes, qui sont toujours exploités d'ailleurs aujourd'hui, qui sont capables de fournir non pas des milliers, mais des millions de tonnes chaque année. Et du coup, les cours du phosphate ont brutalement baissé. C'est devenu trop cher d'exploiter ici. Donc en gros, la plupart des phosphatières, à peu près 90%, ont fermé à partir de 1887. Donc quelques-unes ont continué à être exploitées, dont celle-ci qui a été exploitée jusqu'en 1906. Et la dernière phosphatière s'est arrêtée en 1926 dans la région. Et là, dans cette deuxième partie, c'était plutôt des sociétés françaises locales qui ont exploité ces phosphatières. Donc c'était vendu en local.
D'accord, mais toujours pour faire des engrais.
En résumé, une période de découverte, une période d'exploitation intensive, principalement par des Britanniques, et une deuxième période un peu plus longue, d'environ une trentaine d'années, d'exploitation plutôt extensive pour un commerce local.
Et ben non, il n'y a plus aucune phosphatière qui fonctionne sur le territoire français.
Alors effectivement, aujourd'hui, depuis 1959, la dernière phosphatière a fermé à Beauval, dans le nord de la France, en fait. Hein. Donc sachant qu'à l'époque, il y avait le Quercy, qui était une zone d'environ 500 km², et qu'il y a eu d'autres zones en France où des phosphatières ont été exploitées, notamment dans le nord Pas-de-Calais et en Picardie, donc dans la Somme, également dans la Meuse et dans les Ardennes. Et tout ça a fermé, en fait, à peu près à la même époque. Voilà. Donc du coup, effectivement, aujourd'hui, le phosphate, il vient principalement de Chine pour 30% de la production mondiale. Les Chinois consomment d'ailleurs la totalité de ce qu'ils produisent, donc ils ne sont pas exportateurs. Le premier exportateur mondial, c'est le Maroc, en fait, qui en fait fournit beaucoup, beaucoup de pays. Les États-Unis, qui sont en forte baisse, qui ont été les premiers pendant très longtemps, et la Russie, donc qui fournissent les trois quarts de la production mondiale, qui ne sont pas de 30 000 tonnes par an, comme à l'époque, mais de 250 millions de tonnes par an, en fait. Voilà, donc du coup, la production mondiale de phosphate, c'est la troisième matière première la plus échangée aujourd'hui après le gaz et le pétrole.
D'accord, oui, on n'en a pas conscience. Et tout ça, c'est pour l'agriculture.
Voilà. Alors effectivement, 90% des usages du phosphate dans le monde sont pour les engrais aujourd'hui, et 10% servent à plein de choses. Donc par exemple, les sodas au cola, sans citer de marque, contiennent comme stabilisant de l'acide phosphorique, issu par attaque acide de la phosphorite, la roche qui était exploitée ici. Ensuite, on a des stabilisants, des émulsifiants, également des médicaments qui sont à base de phosphate, etc. On en a dans les dentifrices pour fixer le fluor, etc., etc., etc. Et donc, il y a beaucoup d'usages de phosphate. Des dérouillants aussi, donc les produits qu'on met à base d'acide phosphorique permettent d'arrêter la rouille sur les métaux ferreux. Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'usages aujourd'hui de phosphate dans les 10% qui restent.
On va tous regarder maintenant les ingrédients que contiennent
vous regarderez, les produits d'ailleurs, qu'on utilise. Il y a marqué acide phosphorique sur les sodas au phosphate. Les sodas au cola. Voilà. Bon appétit.
Donc on continue la visite.
Alors dans les lessives, détergents industriels et lessives, ça capte les graisses en fait. Ouais. Ça permet une meilleure dissolution des graisses. Ça a été abandonné pour des raisons environnementales. Parce que le phosphate est un engrais, quand il est renvoyé massivement dans l'environnement, il crée des problèmes. On appelle d'eutrophisation, donc qui sont des développements d'algues à la surface des rivières qui pompent en fait l'oxygène dans les rivières et stérilisent complètement la rivière. C'est ce qui d'ailleurs donne la mauvaise réputation au phosphate, et même un argument écologique pour certains avec le sans phosphate sur beaucoup de détergents, etc. Alors que le phosphate, c'est un élément essentiel à la vie, puisque ça permet aux plantes de se développer, puisque ça va en fait permettre la photosynthèse, etc. Et développement des fruits, germination, etc. Voilà, donc ça, sans phosphate, en fait, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'animaux non plus, parce que on en a dans nos cellules, dans nos os, dans notre système nerveux. Donc en fait, le vivant contient le phosphate.
Sans phosphate, pas de vie.
Voilà, tout à fait.
Ça, c'est des éboulements qu'il y a eu.
Alors, ce que vous voyez là, donc on est en fait, ça ressemble un peu à un chaos en fait. Alors, les chaos, c'est plutôt dans les roches granitiques. Là, on est sur du calcaire en fait, puisque nous sommes sur les causes du Quercy. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. On a de la roche calcaire. Donc, quand on le regarde, en fait, ça fait des lignes horizontales. Donc, c'est des roches sédimentaires qui se sont déposées dans de l'eau. Je vous dirai dans quel milieu c'était tout à l'heure. Et donc là, on est devant quelque chose qui ressemble un petit peu à la carrière d'Obélix. En fait. Ouais. Donc ça fait un petit peu comme des menhirs en fait, des choses un petit peu pointues comme ça. Ça ressemble un petit peu aussi à des cheminées de fées, on me le dit souvent. Alors c'est pas ça du tout en fait. Ce qu'on a ici, c'est un lapias. On peut en trouver par exemple dans le parc naturel régional, dans la forêt de la Brogne en fait. Ça fait plein de cailloux dans tous les sens en fait. Ce qu'on a ici en fait, c'est un lapias qu'on appelle en dent de dragon. Alors pourquoi ce drôle de nom? Que font les dragons dans le Quercy? Le drac, on peut en trouver dans les contes et légendes, donc on n'en est pas loin, mais les dragons dont je parle sont plutôt asiatiques et même chinois. Donc là je montre une photo donc qui a été prise dans le Yunnan, donc au sud de la Chine. Là, on voyage aussi quand on visite les phosphatières, en fait, y compris dans l'espace. Au Yunnan, donc, il y a un climat tropical. Et en fait, là-bas, les dents de dragon se forment, en fait, sous l'action de ce climat tropical. Que fait donc cette trace de climat tropical ici dans le Quercy? Il y a des dizaines de millions d'années, il y avait un climat tropical à l'époque où ces phosphatières se sont formées. En fait, c'est le travail de l'eau qui a formé, en fait, ce système de lapias que vous avez là.
Donc sur des millions d'années.
Ça met au moins quelques milliers d'années à se former, en fait, ce que vous avez là. Mais effectivement, ça a des millions d'années, donc exactement environ 30 millions d'années, en fait, dans ce que vous avez là. Donc 30 millions d'années, on parlera tout à l'heure beaucoup de millions d'années. Les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années. L'homme est apparu, si on prend Homo habilis en Afrique, il y a 2,5 millions d'années. Donc on est dans une période, en fait, où les dinosaures ont déjà disparu, mais où l'homme n'est pas encore apparu. Voilà, et donc les phosphatiens, on le verra tout à l'heure, documentent par les fossiles qu'on y trouve cette longue période entre la disparition des dinosaures et l'apparition de l'homme.
C'est un voyage dans l'histoire.
Ah, tout à fait, voilà. Voilà, alors donc on démarre les premières marches, en fait, qui sont les marches originales, qui ont été faites quand le site a été créé, en 1994, les premiers aménagements. Et là, on arrive sur un nouvel aménagement, ici, qui a été fait par la communauté de communes de l'Albin Climogne, il y a donc 2 ans maintenant, avec des marches qui dérapent pas quand il pleut, avec une rampe en corde bien faite, là. Et donc, ça permet, comme ça, de pouvoir descendre tranquillement à l'intérieur.
Et à l'époque, ils descendaient comment dans les phosphatières ?
En fait, avec le système de treuil que je vous ai montré tout à l'heure, ils mettaient le pied dans le seau et puis ils descendaient à l'intérieur. Comme ça.
D'accord,
et
comme ça.
L'histoire. Alors là, au niveau petite description, on est dans quelque chose qui ressemble à une sorte de petit canyon, de gorge en fait, avec du calcaire autour de nous, avec beaucoup de mousse le long des parois. Ce matin, un petit rayon de soleil qui descend à l'intérieur. Beaucoup de fougères aussi le long de ces parois. Donc là, elles sont encore en hivernage. Elles vont repousser au début du printemps, très bientôt là. Pareil, les chênes n'ont pas encore de feuilles, mais à cet endroit, il y a pas mal d'ombre aussi à la pleine période où on visite là. Et donc, on descend progressivement dans cette sorte de petit canyon qui fait une centaine de mètres de long sur 15 mètres de profondeur au plus profond, en pente douce comme ça, pour accéder au gouffre dont qu'on a aperçu tout à l'heure. Et c'est là, en fait, donc au printemps, qu'on a, à la fois en surface et à l'intérieur, pas mal d'espèces d'orchidées, donc une quinzaine, en fait, qui poussent sur le site, sachant qu'après, vous pouvez aussi compléter la visite, il y a des chemins de randonnée, dont un qui démarre du parking, qui permet après d'aller se balader tout autour et d'en découvrir beaucoup plus. Donc, dans le parc naturel régional, il y a des dizaines d'espèces d'orchidées différentes et on peut en trouver une trentaine, en fait, assez facilement, se baladant sur quelques kilomètres autour du site.
Donc quand on vient sur ce site, on s'enrichit à plein de niveaux.
Voilà, oui, tout à fait. Donc c'est vrai que là, je vous ai parlé d'histoire, en fait, de l'exploitation minière. Là, je suis en train de vous parler de milieu naturel, d'environnement. J'ai un petit peu parlé de géologie, là, tout à l'heure. Et puis tout à l'heure, je vous parlerai de paléontologie. Donc en fait, c'est l'histoire de l'exploitation minière, les plantes, l'histoire des roches et l'histoire des animaux du passé. Ce sont les quatre thèmes, en fait, de la visite. En dehors de ces quatre thèmes, le site lui-même est très 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 beau. C'est un plaisir de s'y balader à l'intérieur.
Et j'imagine que l'été, quand il fait chaud dehors, ici on trouve en plus un peu de fraîcheur.
Tout à fait. Donc l'été, voilà, il peut faire des températures parfois caniculaires. Et assez vite, à l'endroit où nous sommes, là, il fait une vingtaine de degrés, et puis un peu plus au fond, 15 degrés, en fait, à l'endroit le plus abrité. Donc effectivement, c'est le lieu où venir pour se mettre au frais pendant l'été.
Là, on voit les fougères naissantes qui sont en train de se dérouler.
Donc effectivement, là, les fougères scolopendres, ces fougères à longues feuilles que vous avez là, donc qui ont ce nom-là, d'ailleurs, parce que quand on soulève dessous les spores, ressemble un petit peu à des pattes de mille pattes, d'où le nom de scolopendre. Du coup, là, elles sont en train de faner, les scolopendres de l'an dernier, d'être remplacées par de nouvelles pousses. Donc ça fait un petit peu comme des crosses d'évêques là, qui se développent ici. Voilà. Au plus fort de la sortie de ces fougères, on a une dizaine d'espèces de fougères différentes en fait, à l'intérieur des phosphatures.
Que l'on trouve uniquement dans ce site ou qu'on peut trouver dans le Lot de façon générale.
On peut les trouver dans le Lot en fait de façon générale. Hein. Les scolopendres, on les trouve à l'entrée des grottes, des gouffres, dans les fonds des vallées, etc. Pareil pour les autres espèces de fougères. En fait, elles sont pas endémiques spécialement aux phosphatières. En fait, on a la particularité ici au niveau microclimat d'avoir un microclimat de vallée en plein milieu du Causse. En fait, voilà, c'est un petit peu l'image qu'il y a là.
Là, on change d'atmosphère.
Ouais. On a par-ci, par-là, des fientes. Donc là, on a en fait des chouettes effraies qui vivent ici. Donc là, en ce moment, avec les visites qui n'ont pas lieu, il y a plein de passages là. Donc du coup, il y a... voilà.
Elles sont chez elles.
Aussi, voilà. Les animaux sont présents. Alors, ici, ça aussi, c'est une trace de chouette. Donc là, les chouettes, en fait, elles mangent les mulots, en fait, ou tous les rongeurs d'un coup, là. Elles les digèrent et elles rejettent tous les os dans des pelotes de réjection. Souvent, en SVT, les élèves dissèquent ces pelotes pour trouver les petits os des rongeurs qui ont été mangés. Voilà.
Et là, je vois sur la roche, il y a des traces. C'était les travaux de l'époque ?
Oui et non. Bon, il y a des traces, effectivement, qui sont naturelles. Par contre, quand on regarde à certains endroits, ici, là, on a des traces blanches, là. Alors, je viens d'en faire une avec mes doigts, mais c'est pas mes doigts qui ont fait ça. On le voit mieux sur la roche qui est en face, là, qui est éclairée, là. Donc, effectivement, on voit le témoignage aussi des mineurs à l'intérieur de cette phosphatière qui ont gratté la paroi avec des pics pour gratter et récupérer la croûte, le morceau plat que j'ai montré tout à l'heure.
Oui, ça permet de s'imaginer la phosphatière en pleine activité.
Donc là, on est au fond du gouffre qu'on a aperçu tout à l'heure, là, pile à la verticale dans l'endroit où on était quand je vous ai parlé de l'exploitation minière. Donc en face de moi, là, j'ai le seau, le deuxième seau du treuil qui pend. Hein, et donc, voilà, ça permet de se repérer. Hein, donc on était là-haut tout à l'heure. C'est dans ce lieu qu'on découvre en fait comment cette phosphatière a été formée. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on regarde le calcaire, ça fait des couches horizontales. Et je vous l'ai dit, ça s'est formé dans de l'eau. Alors, c'était pas n'importe quelle eau, car en effet, le paysage du Quercy, là aussi je vais montrer une autre illustration. Cette illustration-là, c'est une plage tropicale avec des arbres tropicaux ici. Et puis, donc, l'eau peu profonde et des sortes de vagues, en fait, qui sont des rides de vagues, qui sont les traces laissées par le sable du mouvement des vagues. Ce sable est très blanc. La photo que je montre a été prise aux Bahamas, au large de la Floride. Et pourquoi je montre cette photo-là? C'est parce qu'en fait, à l'époque où ce calcaire s'est formé, c'est-à-dire une époque qu'on appelle le Jurassique, la période où les dinosaures étaient présents sur Terre, ce calcaire s'est formé en se déposant sous cette mer chaude et tropicale, en durcissant et donc en formant ces couches que l'on voit là. Ces causes du Quercy sont le témoignage de ce type de paysage. Et d'ailleurs, dans un autre reportage, vous parlerez également de la plage Ptérosaure. Donc, il y a un site qui est situé à l'ouest de Cahors, sur la commune de Creissac. On voit à la plage Ptérosaure des traces laissées par plusieurs espèces d'animaux différents en l'espace d'une marée, en fait. Du coup, ça permet de voir directement et d'imaginer ce qu'étaient ces paysages-là. Voilà. Donc ça, les phosphatières à l'époque n'étaient pas présentes. C'est juste l'explication de comment ces calcaires se sont formés. Donc la grotte dans laquelle nous sommes n'était pas formée. La deuxième étape, c'est qu'en fait, aujourd'hui, nous ne sommes plus au bord de la mer ni aux Bahamas. Dans un premier temps, le niveau de la mer a baissé. Le niveau des mers a baissé, on s'est retrouvé sur le continent. Et à partir de là, ces centaines de mètres de roches calcaires se sont retrouvées soumises à un processus qu'on appelle l'érosion. Autrement dit, l'eau de pluie a commencé à dissoudre la roche. Et donc, ça s'est passé de deux façons. D'abord, l'eau de pluie est descendue à travers les fissures, on en voit de nombreuses le long de ces parois, pour aller en profondeur, comme aujourd'hui, former des grottes et des rivières souterraines. Donc là, j'ai un deuxième schéma avec les couches de calcaire sur un dessin, et tout à fait au fond, à quelque chose qui se veut être à 300 mètres de profondeur, une grotte remplie d'eau qui se forme. Dans un deuxième temps, on était à cette profondeur complètement remplie d'eau, donc il faut imaginer que l'endroit dans lequel nous sommes est une ancienne rivière souterraine, complètement sous terre. Troisième chose qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas aujourd'hui à 400 mètres sous terre, mais en surface. Donc après, petit à petit, le niveau du sol a baissé. Donc ça, c'est l'érosion de surface. La pluie va dissoudre la roche. Lors de cette dissolution des calcaires, on va avoir de l'argile qui va se former et qui va concentrer les phosphates qui s'étaient précédemment formés dans la mer. Et puis, au bout de 30 millions d'années d'érosion parfois, des centaines de mètres de roches calcaires ont disparu, le plafond de la grotte disparaît, ça s'ouvre. Donc ça va déjà donner le site tel qu'il est aujourd'hui. Puis, l'argile coule dedans, elle entraîne avec elle des restes d'animaux qui vivent à l'époque tout autour. Et puis, petit à petit, en l'espace de quelques milliers d'années, une période beaucoup plus courte que les millions d'années en fait, on va avoir le site qui se rebouche. Et à partir de là, les eaux qui sont tombées à l'intérieur ne vont pas se décomposer comme ils auraient dû faire. Ils vont capter le phosphate qui est autour et ça va donner les fossiles. Donc je vous ai montré un exemplaire tout à l'heure. Par la suite, de nombreux millions d'années se passent. Brièvement, l'eau revient sur la région, mais pas l'eau de mer, c'est l'eau d'un lac qu'on appelait le lac de l'Agenais, donc qui était basé au départ sur la région d'Agen et puis qui est venu recouvrir la surface du Causse et qui va recouvrir d'argile et de calcaire blanc, le Causse. Alors, ces calcaires et argiles blanches n'ont pas totalement disparu, puisque aujourd'hui, le Quercy blanc, la région sud-ouest du département du Lot, et également, ces calcaires couvrent une partie ouest du département du Tarn-et-Garonne, une partie de l'Agenais, j'en ai parlé tout à l'heure, et même, on en trouve jusqu'en Dordogne. Donc, ces calcaires sont là, vont protéger le Causse dans lequel nous sommes, puis le lac va se retirer, et à ce moment-là, ça va disparaître de cette partie sud-est du département du Lot.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, on l'a que dans le Quercy blanc, ce calcaire. Par contre, aujourd'hui, on a des cosses avec, au 19e siècle, ces phosphatières qui étaient préservées dessous. On voit sur cette illustration ici la phosphatière avec un champ cultivé par-dessus. Donc ça, c'est avant la découverte par Jean-André Poumarède, voire pendant la découverte. Et puis après, donc on a un autre schéma qui montre les mineurs en train de travailler. Donc ils creusent l'argile rouge pour aller rechercher la phosphorite par les systèmes de Treuil dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis finalement, ces phosphatières sont abandonnées par manque de rentabilité au début du XXe siècle. Et puis finalement, depuis plus de maintenant 60 ans, on a les paléontologues qui vont aller rechercher les fossiles qui s'y trouvent pour aller les reconstituer. On en reparlera tout à l'heure. Voilà donc un petit peu la longue histoire de la formation de ces phosphatières.
Et j'imagine qu'ils ont pu trouver des fossiles, des animaux complets ?
Oui, la plupart du temps, on trouve en fait des bouts par-ci, par-là. Par contre, on trouve des animaux complets, et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir juste après.
Parfait.
Voilà, alors là, on est en train de passer dans une deuxième partie du site. Donc là, on est pile au fond du gouffre, de nouveau, qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on va arriver sous le seau. Et là, donc, en saison, on a beaucoup de fougères ici, à cet endroit-là. Là, elles sont un petit peu fanées, mais on commence à voir, d'ailleurs, comme tout à l'heure, d'autres fougères qui sortent, donc des fougères mâles et des fougères femelles là, qui sont pour l'instant fanées. Et là, on a un grand massif de fougères. Et en pleine saison, là, on descend dans le massif de fougères, en fait, là.
Donc en plein tropique.
Voilà, en plein tropique, ouais. Et d'ailleurs, on pourrait presque s'imaginer qu'une tête de dinosaure va sortir de quelque part de ces fougères. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà, donc là on arrive dans une nouvelle partie aménagée depuis 2 ans. On n'y accédait pas jusque-là. Donc là on arrive un peu en dessous du seau, juste au-dessus de nous. On arrive à la partie la plus profonde de la phosphatière, donc à 20 mètres de profondeur.
Et là, effectivement, des ossements.
Effectivement, donc là, on a reconstitué ici, parce que il faut penser que cette phosphatière, au moment où on est arrivé pour l'aménager, il n'y avait pas tout ça, parce que elle a été longtemps exploitée, donc des pièces comme ça ont disparu. Vous avez là la reconstitution d'un gisement de fossiles, donc qui s'appelle le Garouillas, qui était situé sur la commune de Bâche. Donc les fossiles aujourd'hui sont dans un laboratoire de paléontologie à Montpellier, et donc là, on en a une reconstitution. Donc là, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parfois on peut trouver des squelettes entiers en connexion anatomique, mais c'est quand même assez rare parce que par le mode de formation de ces phosphatières, c'est souvent plutôt des petits bouts, comme vous en avez ici, là. Je vais vous expliquer ce que c'est là tout à l'heure, mais c'est plutôt des bouts comme ça de crâne ou de choses comme ça qu'on trouve que des choses comme ça. Alors là, on est en présence en fait d'un animal qui est la bête sauvage de Cahors. Alors, pourquoi je l'appelle comme ça? C'est parce qu'en fait, quand les paléontologues ont donné des noms aux fossiles qu'ils trouvaient, c'était des animaux qui étaient connus nulle part ailleurs, et donc ils leur ont donné des noms, souvent de localités de la région. En latin, Cahors s'appelait Divona Cadurcorum. Donc, les premiers habitants de Cahors, c'était les Cadurques, en fait, et qui a donné le nom Cadurcien, d'ailleurs. Donc, son nom latin, c'est le Cadurcotherium Keluxi. Alors, il y a toujours deux parties, en fait, au nom des espèces vivantes. Donc, Cadurcotherium, donc on reconnaît Cadurc au départ. Therium, ça veut dire la bête sauvage, d'où le nom de ma bête sauvage de Cahors de tout à l'heure. Et comme des bêtes sauvages de Cahors, il y en a plusieurs espèces différentes, on a ajouté un nom derrière. Donc, celui-ci, c'est Keluxi de Kélus, en hommage à beaucoup de phosphatières qui sont là-bas aussi, qui ont été exploitées de la même façon qu'ici. Voilà, donc du coup, cette bête sauvage de Cahors est là. Et donc, elle est en connexion anatomique. C'est un animal qui fait à peu près 1,20 m de long, 1,20 m de haut, et qui faisait presque 1 tonne, parce qu'on voit ses os très, très importants par rapport à la taille de cet animal. Donc, c'est un animal très, très trapu. Alors, on voit effectivement des canines assez grandes sur cet animal et des dents très usées. Alors, les dents très usées, elles montrent qu'en fait, cet animal, c'était pas un carnivore, malgré les canines qu'il a. Hein. C'était un animal, et la mâchoire ressemble beaucoup à une mâchoire de cheval. Et il y a des chevaux qui ont encore des petites canines, comme ça, qui ont des incisives devant. Mais donc, cet animal, c'était plutôt un herbivore. Donc après, on a sa grosse colonne vertébrale. On a son omoplate et sa patte avant, ici. Et puis, son fémur, son tibia et ses 3 doigts, donc qui permettent de classer cet animal assez proche, en fait, à la fois des tapirs et des rhinocéros. Après, il y a, voilà, ce que je disais, c'est que bah, les animaux, ils sont pas toujours en connexion anatomique. Donc là, on a juste la mâchoire du haut et la mâchoire du bas. Il n'y a pas le crâne, il n'y a pas le squelette et tout ça. D'un animal qui est beaucoup plus petit. Donc là, la mâchoire, elle fait à peu près 10 cm de long sur 5 de large. Et elle ressemble beaucoup à une mâchoire de chevreuil ou de mouton ou de chèvre, en fait, ou de brebis ou de chèvre, hein, pour être plus local. Cet animal-là, c'est une sorte d'antilope. Donc vous voyez, rhinocéros, antilope, un truc bizarre par rapport à aujourd'hui. Je vous en parlais tout à l'heure. Ensuite, là, on a la carapace d'une tortue terrestre aussi, qui est là. Et puis pour finir, on a la mâchoire du haut et la mâchoire du bas d'un animal qui a des dents assez pointues, là, qui est un félin, et qui ressemblait beaucoup à une sorte de lion, en fait, apparenté à la famille des tigres à dents de sabre. Donc des lions, des antilopes, des rhinocéros. Là, on n'est plus tout à fait dans le Quercy aujourd'hui, on est plutôt en Afrique, dans la savane. Ça veut dire qu'en fait, longtemps après ces fameux Bahamas dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a eu un paysage de savane dans la région. Donc, le gisement du Garouyas daté d'environ 30 millions d'années, qui est à peu près l'âge de la phosphatière dans laquelle nous nous trouvons, c'était la savane à l'époque où il vivait. Voilà, donc du coup, on a divers animaux comme ça qui vont nous retracer au cours du temps l'évolution des paysages et des climats. Un gisement, retrouvé à un endroit précis, égale un âge, égale un paysage. On a aujourd'hui plus de 200 gisements qui ont été répertoriés et étudiés par les paléontologues, qui reconstituent, et là aussi je vais dire beaucoup de millions d'années, entre 50 millions d'années et 20 millions d'années, un véritable film de l'évolution des animaux et des climats. Donc je vais vous le décrire tout à l'heure. La savane, c'était au milieu du film. Je vais vous dire ce qu'il y avait au début et ce qu'il y avait à la fin, juste après.
Une vraie intrigue.
Ouais, ouais.
Mais là, les ossements qu'on a devant nous, enfin les fossiles qui sont là, vivaient en même temps, au même moment.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que un gisement s'est rempli en quelques milliers d'années, donc au même moment, bon, en termes géologiques, oui. Ça peut être aussi assez long par rapport à nos référentiels habituels. Mais en tout cas, chaque gisement s'est bouché en moins d'un million d'années. Donc ça veut dire que un gisement égale un âge donné. Donc on peut dire qu'effectivement, l'ensemble de ces espèces ont cohabité au même endroit.
Du grand au tout petit.
Voilà, tout à fait. Voilà, du grand au tout petit. Alors sachant que c'est comme aujourd'hui, hein, quand on regarde la biodiversité actuelle chez les mammifères, on a à peu près même pas 10% des mammifères qui font plus de 25 kilos. Et 90% des mammifères qui font moins de 25 kilos. Donc là, c'était pareil. Hein. Là, on a un gros et puis quatre petits. Là, on a 25%, mais il faut imaginer que si on avait voulu faire ça à échelle réelle, on en aurait mis un pour 10 ou un pour 15. Il ne faut pas imaginer que tous les animaux à l'époque étaient énormes comme celui-ci. Un peu comme quand on regarde en Afrique, dans la savane, hein, on a les rhinocéros qui sont très gros et les éléphants qui sont très gros, mais tous les animaux qui vivent sur Terre, tous les mammifères qui vivent sur Terre ne sont pas des éléphants ou des rhinocéros. Après, il y a beaucoup plus petits. Par exemple, une chauve-souris, il y en a aussi dans les phosphatières fossilisées. Ça fait quelques grammes et ça représente aussi beaucoup d'espèces vivantes, beaucoup plus que les rhinocéros. Voilà, donc là, on passe sous un tunnel, sous une passerelle qui a été aménagée récemment également. Et donc, on va redéboucher dans une autre phosphatière, ici, donc la dernière. Cette phosphatière qui est visible, en fait, des sentiers thématiques, je vous en parlerai tout à l'heure, sur le chemin du phosphate. Et là, c'est intéressant parce que cette phosphatière, il y a juste le fond qui est aménagé par une plateforme. Et là, quand on regarde, c'est embroussaillé, il y a des fougères un peu partout, des sortes de racines, ça fait comme des lianes en fait, mais c'est des plantes grimpantes en fait que l'on voit là. Ça ressemble beaucoup à une phosphatière qu'on trouve dans la nature aujourd'hui. Avant que le site soit aménagé, il ressemblait à ça. Donc en fait, ce lieu est intéressant pour ça. Et alors au niveau de la biodiversité végétale aussi, je vous ai parlé des fougères, on a parlé biodiversité animale avec les chouettes effraies, etc. La particularité de ces phosphatières, c'est la présence de mousses. Et ces mousses, en fait, bien que pas vraiment spectaculaires à montrer comme ça individuellement, ont quand même un aspect assez étonnant. On a plusieurs dizaines d'espèces de mousses différentes, dont certaines, en fait, sont endémiques, c'est-à-dire spécifiques à cette phosphatière. Bon, c'est la seule qui a été aujourd'hui étudiée, donc je pense que dans d'autres phosphatières, on trouverait ça. Mais dans d'autres milieux naturels du Quercy, par contre, on ne trouve pas certains types de ces mousses qui sont là.
Et là, elle recouvre toutes les parois.
Et là, effectivement, elle recouvre toutes les parois, puisque bah, là, on est une partie qui est toujours à l'ombre, toujours très fraîche, en fait. Donc, du coup, c'est, pour nous, on l'appelle la phosphatière des mousses.
Et celle-ci, on la trouve qu'ici.
Voilà, c'est ça. Oui. Voilà, alors ici, ben, je vais vous parler un petit peu des découvertes paléontologiques. Alors, la paléontologie, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a démarré bah, dès le 19e siècle, en fait, avec Jean-André Poumarède. Et beaucoup de fossiles, malheureusement, ont été détruits par les mineurs. Simplement, s'il n'y avait pas eu d'exploitation minière, il n'y aurait pas eu de découverte paléontologique, puisque la suite de l'histoire, c'est que, après l'abandon des phosphatières, il y a eu autre chose qui a touché le Quercy, qui est complètement indépendant de l'histoire des phosphatières. Je vous ai dit tout à l'heure que les paysages étaient recouverts de vignes. Et ben, cette vigne, au début du XXe siècle et à la fin du XIXe, elle a complètement disparu sous l'action d'une maladie qu'on appelle le phylloxéra. Et donc, ce phylloxéra a détruit complètement le vignoble de Cahors. Ça faisait la richesse du coin, ça faisait la population. Donc, beaucoup de gens sont partis. Donc, le pays a été abandonné. Et donc les champs cultivés se sont transformés en bois et en forêt, le paysage qu'on voit aujourd'hui. Donc on imagine que s'il n'y avait pas eu exploitation minière, il y aurait eu quand même le phylloxéra et donc en fait ces bois et ces forêts, tout aurait recouvert ces terrains parfaitement plats et donc ces phosphatières auraient été parfaitement indétectables. Donc en fait, l'exploitation minière, bien qu'elle ait détruit de nombreux fossiles, a permis de les mettre en évidence quand même, de montrer où les chercher, mais également a préservé par l'action de quelques mineurs qui ont mis dans leur poche des pièces parfois exceptionnelles. J'ai dans ma main, ici, le moulage d'une grenouille. Donc, il fait à peu près 5-6 cm de long sur 2-3 de large, 2-3 de haut. On reconnaît parfaitement la tête de la grenouille quand on le regarde de face. Alors, je vous ai parlé d'os tout à l'heure, mais il est parfois arrivé que si des animaux sont enfouis assez rapidement dans une grande quantité d'argile, ils sont mis à l'abri de l'oxygène, ils ne se décomposent pas. Et le phosphate qui est autour va venir fossiliser également les tissus mous. C'est ce que vous avez là.
Oui, on dirait voilà. Les petites veines, enfin, on voit tout, c'est très précis.
Après, effectivement, on voit toutes les petites choses. Et alors après, récemment, ces pièces-là ont été scannées avec des appareils apparentés aux IRM, mais beaucoup plus puissants, aux rayons X. Donc ça permet d'aller voir à l'intérieur ce qui s'y trouve. Et en fait, on a les organes internes également qui sont préservés par la fossilisation. Donc on peut étudier un peu le cerveau, etc., l'emplacement des organes aussi à l'intérieur. Ces pièces-là, donc cette grenouille a été mise dans la poche par un mineur et donc a été aujourd'hui est exposée au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris où elle a été étudiée au 19e siècle. Alors ces pièces sont intéressantes, mais malheureusement, beaucoup sont complètement indatables, parce qu'en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, une phosphatière égale un âge. Si on ne retrouve pas l'ensemble des fossiles d'une même phosphatière en faisant une étude, on ne parvient pas à dater une phosphatière. Une pièce isolée ramassée sans précaution, eh bien, n'a plus aucune valeur scientifique en termes de datation. Et donc, c'est le travail des paléontologues depuis 1960 qui vont aller rechercher ces fossiles pour reconstituer avec l'histoire de ces âges. Je vais vous parler dans un instant.
C'est vraiment un grand jeu de puzzle
à tous
les niveaux.
Oui. Après, la reconstitution de tout ça à partir de ça, je vais vous montrer les conclusions, mais en fait, ça demande un travail de fourmi, parce que il faut d'abord aller chercher les fossiles dans les phosphatières en descendant en rappel dans ce type de lieu, aller trouver les bons endroits où chercher. Par exemple, on a ici une petite veine encore d'argile visible. Là-dedans, bon, on a regardé, il n'y en a pas, mais il pourrait y avoir des fossiles à l'intérieur. Donc les paléontologues font des prélèvements là-dedans. Ensuite, ils vont laver cette argile, ils vont la tamiser pour aller récupérer les fossiles qui s'y trouvent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils vont pas forcément trouver d'énormes fossiles comme ça, ils vont trouver des choses qui vont faire quelques millimètres. Donc ils vont les passer au binoculaire, les trier, et puis donc pouvoir les identifier comme ça. Donc c'est vraiment un travail de fourmi. Et une fois qu'ils ont la liste des espèces présentes, ben là, ils vont pouvoir faire des hypothèses, voire des conclusions sur les paysages du passé. Donc ce travail a été réalisé sur aujourd'hui plus de presque 200 phosphatières différentes et il donne les résultats suivants. Donc l'ensemble des fossiles des phosphatières, ça représente plus de 700 espèces d'animaux répertoriés sur plus de 30 millions d'années, nous dit que entre 50
et 34 millions d'années. On avait des paysages de forêt tropicale humide. Donc là, je vous montre un paysage pareil. Là, c'est la République dominicaine, mais avec des choses très arrondies, un petit peu comme on a vu sur les dents de dragon tout à l'heure, avec des animaux plutôt de forêt tropicale. On voit un crocodile ici, une chauve-souris tropicale, et donc là, ici, on a une sorte de lémurien. Et puis, le paysage change par la suite. Entre 34 et 27 millions d'années, on se retrouve avec un paysage plutôt tropical sec et sans arbres. Et puis l'évolution se poursuit, la forêt revient brièvement, on a un climat subtropical jusqu'à 20 millions d'années. Donc en fait, on a encore un troisième climat différent. Alors en fait, les paléontologues, par leur conclusion sur l'ensemble de ces phosphatières et ce travail de fourmi qui est fait depuis des années, toujours pas fini d'ailleurs, il y a encore plein de domaines de recherche dans lesquels ils travaillent encore, on a en fait un véritable film de l'évolution des paysages et des climats, avec il y a 34 millions d'années un changement dans la biodiversité, dû à un refroidissement climatique qui a touché la surface de la Terre, qui va faire passer le quercy de la forêt tropicale à la savane, et donc qui va en fait être le témoin de cette évolution globale du climat. Voilà, avec aussi au passage une crise biologique, etc. Voilà, donc du coup ça aussi des choses qui ramènent aussi à ce que nous vivons actuellement.
C'est ce que j'allais vous dire.
Tout à fait. Voilà, alors effectivement, au passage, le site est intéressant parce qu'il permet de réfléchir à des choses. Donc on a les changements climatiques, on a l'épuisement des ressources naturelles, puisque des millions de tonnes de ressources naturelles exploitées chaque année, au bout d'un moment ça s'épuise, etc. Sur l'impact de l'homme sur le paysage, etc. Donc tous ces thèmes permettent de réfléchir. Alors là, au passage, à propos de ce changement climatique d'il y a 34 millions d'années, la réflexion de beaucoup de visiteurs, c'est « mais du coup, l'homme n'était pas là à l'époque ». On nous dit là en ce moment que ce changement climatique, il est dû à l'homme et tout ça, mais ils nous disent n'importe quoi parce que en fait, on voit bien que dans le passé, il y en a eu, etc. Alors oui et non, c'est-à-dire que l'homme est aujourd'hui un impact clair sur le changement climatique qu'on a actuellement, par l'ensemble des rejets de gaz à effet de serre depuis la révolution industrielle, a réchauffé la planète, elle a accéléré un mouvement qui se serait fait naturellement peut-être, voire pas d'ailleurs, parce que on aurait pu aussi redescendre en température, aller vers un nouvel âge glaciaire. Donc ça, on ne le sait pas, hein. Mais sur le réchauffement climatique actuel, l'homme a un réel impact. Après, effectivement, il y a pu y en avoir dans d'autres parties parce que ces mécanismes de changement climatique sont assez complexes. Il peut y avoir des changements de courant marin, des augmentations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère provoquées par d'autres causes, des éruptions volcaniques, etc. Du piégeage de gaz à effet de serre dans le CO2 dans les océans aussi, qui a tendance à baisser l'effet de serre. Donc tout ça peut faire des variations de température. Donc du coup, effectivement, à travers ça, on a accès aux mécanismes de changement climatique. Et d'ailleurs, la crise qui s'appelle la grande coupure, en fait, qui est mise en évidence il y a 34 millions d'années par les phosphatières, documente en fait ces changements climatiques. Alors c'est un effet inverse de ce qui se passe actuellement, puisque c'est un refroidissement climatique, mais ça permet d'aller étudier dans le passé ces différents paramètres.
Et on parle tout à l'heure de l'impact de l'homme. Vous parliez aussi que dans la phosphatière, ça avait servi de déchetterie. Voilà. Et que.
Alors effectivement, j'en viens effectivement sur le projet d'aménagement, puisque ce site n'est pas seulement une attraction touristique supplémentaire par rapport à l'offre du Quercy qui est déjà abondante. C'est aussi, je vous en ai fait la démonstration il y a un instant, un outil de réflexion sur donc ce qui est ce patrimoine lié aux phosphatières. Il faut savoir qu'il y a une trentaine d'années, ce patrimoine allait complètement disparaître dans l'oubli. À la fin de l'exploitation minière, donc ces phosphatières ont été abandonnées, la population est partie, donc les gens ont un petit peu oublié que ça existait. Et puis ont oublié aussi un petit peu ce qui s'était passé au niveau de la période exploitation minière. Donc le site permet de réactiver la mémoire locale sur cette partie de l'histoire quercinoise. Deuxième chose, dans la partie en fait d'abandon, les gens ne sachant pas exactement ce que représente ce patrimoine, s'en sont servis pour d'autres moyens moins glorieux que la paléontologie, puisque beaucoup de sites ont été transformés en décharges d'ordures, dont celui-ci, parce qu'avant tout aménagement, ben, on a dû dégager plusieurs tonnes de poubelles. Régulièrement, d'ailleurs, sont organisées dans la région, on le voit à travers la presse locale, des opérations de dépollution. La dernière a eu lieu en septembre à 500 mètres d'ici, sur la phosphatière de Loup, sur la commune de Bâche, là. Ils ont retiré plusieurs tonnes de déchets, en fait, d'une petite phosphatière. Donc, ces dépollutions permettent d'une part d'éviter la pollution du souterrain, puisqu'en fait l'eau passe à travers les poubelles et va aller polluer les eaux qui sont dessous, mais aussi donne accès à des gisements paléontologiques, puisque les poubelles ont été jetées par-dessus les fossiles qu'il avait pu rester. Donc ça donne accès aux paléontologues également là-dedans. Voilà, donc du coup, le site est un site donc pour réfléchir, un site pour rappeler l'exploitation minière, un site pour rappeler aussi que ces mauvaises pratiques, aujourd'hui, il y a d'autres solutions aussi pour le faire. Il y a les déchetteries, il y a le recyclage, etc., qui est très important. Donc il y a une notion de développement durable aussi dans notre projet de site. Et puis également, ça met en valeur le travail des paléontologues. Pareil, ces phosphatières menacées complètement de disparaître pour la paléontologie, puisque ces phosphatières étaient pillées par des collectionneurs entre le passage des paléontologues. Et donc l'association Les Phosphatières du Quercy, qui a créé au départ ce site, a voulu alerter la population locale, pareil, sur la nécessité de protéger ces sites, donc de signaler s'ils voyaient des dégradations sur ces phosphatières qui mettaient en danger ces gisements. Et donc tout ce processus également a abouti sur la création en 2015, après inventaire de l'ensemble du patrimoine géologique, qui est autre chose que des phosphatières également dans la région, d'une réserve naturelle nationale d'intérêt géologique, donc la réserve naturelle nationale du Lot, créée en 2015, et donc aujourd'hui gérée par le parc naturel régional des Causses du Quercy via un conservateur qui va vérifier sur les lieux, organiser les recherches paléontologiques également, faire des opérations de sensibilisation du public, notamment scolaire, autour des différentes thématiques liées à la réserve. Ça, c'est ce premier volet de protection. Donc le site ici est protégé sur 20 hectares. Ça empêche en fait de ramasser des choses ici sur le site. Également, donc, il y a 170 hectares de sites qui sont classés dans la zone, et également la plage Optérosaure dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui fait aussi partie de cette réserve. Et il y a un deuxième dispositif également qui a été monté par la présence de ces phosphatières sur ce territoire. Il y a également d'autres sites géologiques dans la région qui ont aussi permis de donner ce label. Le parc naturel régional des Causses du Quercy a en 2017 obtenu le label Géoparc mondial UNESCO. Et donc du coup, par la présence de ces phosphatières sur ce territoire. Donc c'est en ce sens en fait que ce site est beaucoup plus, comme je vous le disais, qu'une simple attraction touristique, parce qu'il y a d'autres choses par devant.
Et tout ça grâce aux paléontologues.
Voilà, oui. Alors, aux paléontologues, et puis grâce à une poignée de bénévoles locaux. Au départ, un groupe de spéléologues avec également des géologues qui étaient en collaboration également avec les paléontologues ont eu l'idée d'aménager ce site. Donc, ils ont vidé les poubelles qui étaient à l'intérieur, aménagé les premières marches qui ont été faites, dont les vestiges sont là-haut encore. Le projet a démarré dans les années 1990, donc en 1994, l'association a acheté le site, a créé les premières marches en suivant, a fait des visites tests, et donc le site a ouvert le 1er juillet 2000. La visite payante avec des saisonniers, etc. Qu'on est passé de 2000 visiteurs en 2000 à donc en 2019 14 000 visiteurs, forcément l'an dernier un peu moins avec la crise sanitaire, mais voilà, donc en gros de 2000 à 14 000 visiteurs, on espère dans les années qui viennent progresser encore plus.
Et puis je crois qu'aussi le site va se développer un petit peu, vous avez
alors,
d'autres projets?
Effectivement, le label Géoparc Plus, après notre nombre de visiteurs croissant, a fait que le site a un petit peu évolué ces dernières années. Donc déjà, si vous venez sur place, vous verrez que les marches ont été refaites là, donc il y a 2 ans, par la communauté de communes du pays de l'Albin-Climogne. Donc l'histoire, ça a été qu'au départ, l'association a démarré seule le projet. La commune de Bâche a permis ensuite de pouvoir se développer dans les 10 premières années d'ouverture par l'aménagement du site tel qu'il est actuellement. Donc la commune est devenue propriétaire des terrains donc jusqu'à il y a 2 ans en fait, et donc a appuyé l'association par des investissements, bien sûr aidés par d'autres choses, mais disons qu'a permis la construction des bâtiments actuels plus l'aménagement du site tel qu'il est aujourd'hui. Et le site, étant donné ce qu'il représente au niveau patrimoine, il est un peu juste aujourd'hui. Et donc du coup, la communauté de communes de l'Albin-Climogne, 23 communes autour de nous et à peu près 5000 habitants, a repris possession du site il y a 2 ans avec un projet d'aménagement. Donc la première partie, on la voit ici avec ses marches refaites. Et donc dans quelques années, on ne sait pas encore quand, mais normalement dans 2-3 ans, on devra avoir sur site un nouvel aménagement avec 400 mètres carrés de bâtiments supplémentaires, un espace muséographique animé d'à peu près 300 mètres carrés, l'ensemble des sentiers autour refait. Donc du coup, il y a un projet d'aménagement. Le but, c'est de dépasser les 20 000 visiteurs dans quelques années. Et alors après, même si c'est pas une attraction touristique de plus, on attire du monde. Donc du coup, on fait ça aussi parce que chaque visiteur qui vient nous voir est logé, va consommer, etc. Et donc induit une économie locale. Et donc là aussi, c'est aussi pour booster un petit peu et aider l'ensemble des entrepreneurs qui sont autour de nous, même en dehors du tourisme, à pouvoir continuer à vivre sur ce pays magnifique. Pour pouvoir porter ce projet, la gestion a changé de main également. Donc pendant une vingtaine d'années, c'est l'association Les Phosphatières du Quercy qui a géré le site. Aujourd'hui, notre équipe de visite est intégrée à l'office de tourisme de Cahors Vallée du Lot. Voilà, et donc du coup, nos collègues de l'office de tourisme nous aident énormément, à la fois logistiquement et puis également au niveau communication, pour nous faire connaître, et je voulais les remercier également.
C'est un beau projet.
Voilà, tout à fait.
Les personnes, elles peuvent visiter les phosphatières, mais pas que, parce que sur votre site, vous proposez, ils peuvent rester une journée complète.
Voilà. Alors effectivement, là, nous venons de terminer la visite guidée, qui dure environ 50 minutes. Et les personnes, quand ils arrivent sur site, ont également à leur disposition donc un parc qui fait environ 5 hectares, qui a été aménagé en sentiers. Donc ces sentiers, actuellement, il y en a 5 qui reprennent un petit peu les thèmes de la visite. Donc le chemin du phosphate avec le thème de l'exploitation minière, le sentier du temps avec le thème de la formation géologique, l'espace flore avec les différentes thématiques floristiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis 2 espaces qui concernent la paléontologie, sentier de la paléontologie, espace animaux du passé, des reconstitutions d'animaux et de paysages dont je viens de parler là, avec un petit jeu pour les enfants également. Dans les années qui viennent, c'est pareil, parallèlement à cet aménagement en dur, on va développer de nombreuses animations diverses en fait pour les divers publics qu'on reçoit. Voilà, diversifier un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, sachant que du coup aujourd'hui on reçoit à peu près 70% des gens qui viennent nous voir, ce sont des individuels, donc on appelle individuels des gens qui sont moins de 15 en fait, qui vont venir sur des horaires marqués, l'après-midi dans la période avril-juin et septembre-octobre, en juillet toute la journée, donc effectivement c'est là où on va pouvoir profiter du site un petit peu toute la journée. Ça c'est la visite individuelle. Ensuite on a les visites de groupe, donc qui se font hors saison d'été le matin. Là, il faut être plus de 15 et à ce moment-là, vous prenez rendez-vous avec nous directement par téléphone ou par email et vous réservez votre créneau et puis on vous fait la visite rien que pour vous. Et puis également, pour les enseignants et les scolaires, on en reçoit énormément puisque ça représente à peu près un quart de la fréquentation du site. Il y a des journées spéciales qui sont organisées, visites, ateliers ou journées entières avec une visite et 2 ateliers adaptés au programme scolaire. De la maternelle jusqu'au... après, on reçoit aussi des Master 2, etc. en paléontologie. Donc, vraiment, on fait le grand écart au niveau de ces animations. Donc, les animations sont adaptées à chaque âge. Bien sûr, on va pas faire la même chose pour les Master 2 que pour les maternelles, je vous rassure. Voilà, donc, du coup, par exemple, en maternelle, on est plutôt sur des visites sensorielles avec découverte de l'argile, modelage, etc. Voilà. Et après, sur le Master 2, on est plutôt sur la partie technique de l'explication des changements climatiques, etc. Voilà, donc on a des choses très très diverses à proposer, donc maternelle, classe élémentaire, collège, lycée. Donc on a plein de choses là-dessus.
Peut-être que quelqu'un qui viendrait en maternelle ici finirait en master 2.
Oui, voilà, et effectivement, alors c'est pas faux parce qu'on a parfois des gens adultes qui viennent et qui nous disent qu'effectivement, à divers stades de leur scolarité, ils sont venus en fait à divers moments, ils ont fait la visite plusieurs fois. Faisant des choses différentes, effectivement, oui.
Vous leur avez donné goût.
Voilà, tout à fait, oui. Parfois, ils se tournent vers la géologie et la paléontologie.
C'est vrai que j'invite tout le monde à venir découvrir ce lieu et y passer une journée. J'espère que ça va réouvrir très vite. Vous l'espérez aussi?
On l'espère, voilà. À l'heure actuelle, là, on est mi-avril. Hein. Donc là, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va rouvrir. J'espère qu'au moment où le reportage sera diffusé, nous serons ouverts. Voilà. Ce que je voulais dire en complément aussi, on l'a dit plusieurs fois dans la visite, le site, il est magique. Et il est propice à de la créativité, de la création, en dehors de la partie purement scientifique qu'on développe là et purement connaissance du patrimoine. On développera assez régulièrement des collaborations avec des artistes qui viennent ici sur place faire des spectacles. Donc on leur prête le site pour un lieu de culturel. Par exemple, en 2019, on a accueilli l'Échappée Belle. C'était en fait une déambulation dans le pays de l'Albin Climogne, le long du GR 65, donc avec une espèce de grande manche à air qui ont été d'ailleurs suspendues à l'endroit où nous sommes, là, dans la fosse fatière des Mousses, brièvement, avec une visite spéciale organisée. Cet été, je ne sais pas du tout si on va pouvoir le faire, mais on espère pouvoir le faire. On pourrait avoir une lune de 8 mètres de diamètre qui pourrait être suspendue là juste au-dessus de l'endroit où nous sommes. Donc c'est la lune qui était à Figeac il y a quelques années et donc qui est gérée par l'association Derrière le Hublot de Figeac. Dans le cadre de Regard sur le parc, en fait, fenêtre sur paysage du parc naturel régional, ça serait pour fêter nos 20 ans qu'on aurait dû fêter l'an dernier, et on voudra organiser une manifestation. Après ça va dépendre vraiment du contexte sanitaire, parce que là on doute vraiment de la possibilité de l'organiser. Et on a l'association Babel Gomme qui avait organisé l'Échappée Belle, qui voudrait revenir en octobre, donc là aussi on espère que ça pourra se faire également. Voilà, c'est quelques exemples de choses qui ont été faites dans le passé, et je voudrais aussi compléter par également une collaboration qu'on a eue avec Les Trucs en Scope, hein, qui est un artiste qui s'appelle Basile Rousseau, il y a quelques années, qui nous avait fait un spectacle sur l'exploitation minière qui s'appelait Trou de mémoire, qui a eu lieu sur le site pendant 2 ans. Voilà, donc c'est quelques exemples de choses qu'on avait envie de faire également lors de cette fête des 20 ans. On pourrait avoir aussi les Soubiranes, un groupe polyphonique occitan qui pourrait venir, un quatuor à cordes qui pourrait être mis à disposition par la communauté de communes également sur l'événement. Voilà, donc du coup, régulièrement, on a des artistes qui viennent. Voilà.
C'est vraiment un site ouvert à tous.
Ah, tout à fait.
Et propice à l'expression.
Tout à fait.
Merci beaucoup pour votre visite. C'était un très bon moment passé en votre compagnie. Et à très bientôt.
Merci.
Vous l'avez entendu, cette interview a été réalisée à la mi-avril. Et le site était à l'époque fermé. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous annoncer que le site a à nouveau ouvert ses portes, et ce, depuis le 19 mai. À l'instar de tous les sites du réseau des Paléonautes, ainsi que de nombreux lieux culturels. N'hésitez pas un seul instant à aller découvrir les phosphatières. Il vous suffit pour cela de réserver via leur site phosphatières.com, phosphatières au pluriel. Vous y trouverez également de multiples informations concernant la visite. Vous pouvez entrer en contact avec eux, soit par téléphone au 05 65 20 06 72 ou par mail contact@phosphatieresaupluriel.com. Vous pourrez retrouver l'émission Les Premiers Pas d'Histoire consacrée aux phosphatières dimanche 6 juin à 19h30 sur nos ondes et également sur notre site antenne-d-oc.fr. Pour notre prochain rendez-vous, je vous ferai découvrir la maison du Piage. À tout bientôt.